tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Ne demande pas ton chemin, tu risquerais de ne pas te perdre. Voilà ce que m'inspire la femme que vous allez entendre dans cette interview, aussi intimiste qu'inspirante. Originaire de Belgique, elle est une artiste aux multiples facettes. Aujourd'hui DJ et productrice, au départ, elle voulait faire du cinéma. La vie étant plus surprenante qu'on ne le pense, sa scène est aujourd'hui électronique et parisienne. Entre techno dure et féminité glaçante, elle distille son art également aux quatre coins de la planète, mais aussi pour de grandes marques de luxe. Si vous sortez à Paris, vous l'avez sûrement déjà vu, et d'ailleurs, eh bien on en parle beaucoup des nuits parisiennes dans cet épisode. Et en l'écoutant, vous aurez peut-être l'impression d'être une petite souris qui s'invite en cachette à une conversation entre deux copines. Car même si on a bien entendu parler de son parcours, de son métier de DJ, de son rythme de vie, de ses références musicales et artistiques, on a aussi discuté, comme toutes les filles finalement, des relations hommes-femmes à l'heure des réseaux sociaux, des dérives du mot féministe et du sens de la fête. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Nathalie Duchesne. Nathalie, je suis ravie de te recevoir dans mon podcast. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci, je t'admire beaucoup. Tu es une femme DJ,
oui.
Et c'est pour ça que je t'admire beaucoup, parce que je pense que ça doit pas forcément être évident tous les jours.
C'est pas commun en tout cas, c'est pas un métier qui est le plus souvent représenté par une femme.
Ouais. Donc je vais te demander, si ça ne te dérange pas, de te présenter à la fois professionnellement et personnellement, oui. Et puis de nous raconter un peu ton parcours, voilà.
Dans les grandes lignes, je vais essayer. Donc, je m'appelle Nathalie Duchesne, je suis belge, je viens de Liège, en Belgique. Alors, je suis à Paris depuis un petit peu plus de 10 ans.
Ouais.
Je suis arrivée à Paris parce que je voulais faire les cours Florent.
Mmh.
J'ai toujours été, depuis petite, passionnée par le cinéma, par le théâtre. Et j'avais dans le désir de... Voilà, mon but, c'était partir à Paris, faire les cours Florent. Mmh. C'était... Donc, j'ai fait les cours Florent pendant 3 ans. Ça allait vraiment... Enfin, j'avais une famille qui n'était pas du tout dans le milieu artistique.
Ils faisaient quoi ? Tes parents ?
Dans ma famille, c'était des gens universitaires. Ils avaient tous des diplômes, médecins, ingénieurs. Et ce qui est drôle, c'est que mes parents... Donc, j'ai une très, très grande famille. Mes parents ont chacun 6 ou 7 frères et sœurs.
Mmh.
Et ce qui est très marrant, c'est que mes parents ont évolué eux-mêmes dans le milieu artistique. Et c'était vraiment les seuls de la famille à évoluer dans ce milieu-là. Ils se sont rencontrés aux Beaux-Arts. Et je ne sais pas, j'étais attirée par le milieu artistique. Mais ce n'était pas du tout ce qu'ils voulaient que je fasse.
Mm-hmm.
J'allais un petit peu à l'encontre de c'est horrible de dire ça, mais de ce qu'ils voulaient pour moi. Mais c'était plus fort que moi. J'étais attirée par ce milieu-là. Évidemment, quand je leur ai dit que je voulais partir à Paris, ça a été un peu le gros scandale dans la famille. Ils ne voulaient pas d'une saltimbanque. Enfin, ce milieu-là, pour eux, ils le rejetaient totalement. Écoute, je suis arrivée à Paris en faisant une fugue.
Une fugue ?
Oui, une fugue. Une
à
fugue.
Quel âge ?
Eh bien, 18 ans. Dès que j'ai eu mon bac, enfin l'équivalent du bac en fait en Belgique, nous on appelle ça la rhétorique. C'est pas le bac, mais tu passes un examen. Mm-hmm. Ça s'appelle la rhéto. Donc j'ai eu durant les vacances, donc juillet et août, j'ai économisé de l'argent pour me payer mon stage au cours Florent, parce qu'il y avait des stages ouais. au sein du cours Florent. Et j'ai économisé pour ça et pour un hôtel. Bon, évidemment, il n'était pas du tout au courant. Et à l'époque, j'avais bossé pendant 2 mois dans le restaurant de mon ex-petite amie. Et du jour au lendemain, donc je m'étais inscrite, j'avais pris l'hôtel. Et
t'avais rien dit à personne.
J'avais rien dit à personne, à part à mon petit ami de l'époque. Ouais. Et qui m'encourageait, lui, énormément. Et donc je suis arrivée à Paris. Et bon, évidemment, le soir même, ma mère m'appelle en me disant « Mais t'es où ?» Je dis « Mais je suis à Paris et je vais faire les cours Florent pendant... je vais faire un stage au cours Florent pendant 1 semaine. » Elle me dit « Mais enfin, t'es folle !» Donc évidemment, le lendemain matin, elle m'a rejoint à Paris. Et elle m'a évidemment bien dit « Écoute, tu fais ton clown pendant 1 semaine et après tu reviens en Belgique. Moi, je t'ai inscrite à l'université. Alors si tu veux, tu feras quelque chose qui se rattachera à l'univers du cinéma. Mais je veux pas que tu partes à Paris. T'es complètement folle. » Et donc, j'ai fait pendant 1 semaine ce stage. Bon, évidemment, j'étais la plus heureuse du monde. Bon, déjà... d'une part d'être à Paris, qui était une ville qui m'avait toujours énormément attirée, et d'autre part d'être au cours Florent avec des gens qui partageaient ma passion. Et à l'issue de ce stage, François Florent, le créateur de ces cours, m'a pris à part et il m'a dit « Écoutez, j'adore, j'aimerais vraiment vous recevoir dans mon école.
La classe ?
Oui.
Mais attends, non, c'est rare. Hein.
Non, parce qu'en fait, il connaissait bien Liège et il avait entendu dire que je venais de Liège et en fait à l'issue du stage, tu passais un quart d'heure avec tous les profs qui t'avaient donné cours et François Florent.
Ok.
Et donc ma maman me dit non, il est hors de question que tu restes à Paris. Tu vas rentrer à Liège. En plus, il va falloir que tu trouves un appartement. Nous, on va pas du tout. On t'encourage pas dans cette voie-là, donc on va pas t'aider financièrement. C'est un énorme coût. Et je dis non, mais je vais me débrouiller. Donc je suis rentrée à Liège. J'étais malheureuse comme la pierre. Et en fait, j'avais déjà organisé ma rentrée au cours Florent ouais. et à Paris. J'avais trouvé une colocation. J'avais essayé de me démerder comme je pouvais. Et j'avais trouvé un petit boulot. Alors c'était vraiment des petits boulots que voilà, c'était vraiment l'enfer. Mais bon, c'est le seul moyen pour moi de rester à Paris. Et pour finir, mes parents ont accepté que je reste à Paris. Et donc, j'ai fait pendant 3 ans les cours Florent. Je faisais les cours du soir parce que la journée, je travaillais. Et voilà, c'était une très belle expérience. Suite à ça, j'ai rencontré des profs exceptionnels. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à passer des petits castings, mais bon, à l'époque, j'avais pas d'agent. C'était très compliqué pour moi de passer des bons castings. Enfin, c'était une période joyeuse, mais je me rendais compte réellement que c'était quand même assez compliqué. Ce métier était compliqué, surtout quand tu ne connais personne. Ma famille n'était pas du tout connectée ici à Paris avec des gens du cinéma ou du théâtre. Mais bon, j'ai continué coûte que coûte. Et suite à ça, j'ai fait le studio Pygmalion, qui était plus une formation d'acteur. C'était plus cinéma que le cours Florent, qui était plus axé sur le théâtre.
Ouais.
Et là... honnêtement, en 9 mois, j'ai plus appris qu'en 3 ans au cours Florent. Ça a été vraiment une vraie révélation. J'ai eu des coachs là-bas exceptionnels, dont un dont je me souviens le nom, qui s'appelait Jean-Michel Stanford. C'était pas non plus... Enfin, je suis des cours exceptionnels, mais c'était toujours assez compliqué voilà, de passer des castings, parce que comme je te disais, je n'avais pas d'agent à l'époque. Mmh. Et donc, petite traversée quand même du désert, jusqu'au moment où je vais au Baron.
Ouais.
À l'époque, il y avait toujours le Baron.
Moi, j'adorais le Baron.
Mais oui, c'était un super endroit. Et d'autant plus que c'est là-bas, en fait, que j'ai rencontré un garçon qui m'a dit « Écoute, j'ai du taf à te proposer. Je bosse pour une marque, une marque de fringues. Et ils sont en train de créer un blog. » Parce qu'à l'époque, c'était bah, 2-3 ans après. Je pense que le vrai lancement de tout l'univers des blogs, etc., c'est quoi, 2007-2008,
ouais,
un truc comme ça.
Ça fait une petite dizaine d'années.
Voilà. Et donc, cette marque lance un blog, mmh, et a besoin de contributeurs,
okay,
au sein de ce blog. L'idée, ça serait que tu m'envoies une vidéo où tu es dans la rue, tu prends une personne au hasard et tu décris comment, tu lui demandes avec quelle marque elle est habillée. Mmh. Ouais, évidemment, bon, je suis quelqu'un de très timide, donc je me dis, mais c'est pas possible, comment
je vais faire ? Mais t'as beaucoup d'humour quand même. Parce que moi, je te suis sur les réseaux sociaux, t'as beaucoup d'humour.
Oui, mais ça cache une énorme timidité.
Ah ben, comme souvent, les gens très drôles sont parfaits.
Je suis une timidité maladive. Et donc, évidemment, je prends une de mes copines. Je dis, bon, tu fais comme si on ne se connaissait pas. Je t'arrête dans la rue. Et donc là, je fais cette petite vidéo. Je l'envoie. C'était un espèce de street style.
Okay.
C'était encore la mode des street style à l'époque. Mmh. Je l'envoie à ce mec. Et il me répond le lendemain. Il me dit, écoute, ils ont adoré ta vidéo. Ils veulent te voir, te rencontrer cette semaine. Et donc, j'ai rendez-vous chez Mage.
C'était Mage.
Okay. Voilà. Mais il n'avait pas voulu me dire avant que je lui envoie la vidéo. Et donc je me retrouve chez Mage, il m'explique le concept et ils veulent que je continue ces vidéos de street style. Je leur dis, écoutez, moi, ça, c'est pas vraiment mon truc. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien, c'est interviewer, et je pense que ça pourrait être intéressant pour votre blog, j'aimerais interviewer des musiciens.
Ok.
Voilà. Je me dis, bah, l'idée est très très bonne.
Parce que tu avais une affinité, enfin, t'aimais ça et que
oui,
c'était
j'ai toujours, truc. J'ai toujours, ouais, toujours adoré, ouais, la musique. Et
quel type de musicien tu voulais ?
Quel type de... Bah, il fallait quand même que ça reste assez accessible, puisque Mage est quand même une marque accessible. Donc j'ai interviewé pour Mage des artistes comme Bob Sinclair, comme Céline Lasso, comme Brodinski, The Shoes, Ayo. Enfin, c'était les artistes du
moment.
Du moment.
Ouais.
Et puis j'ai même interviewé Jean Rock.
Waouh.
C'était très marrant, c'était une interview qui est la plus longue interview de toute cette aventure, ouais, avec Mage. C'était très marrant. Mage, voyant que j'étais assez calée en musique et que j'étais assez attirée par ce milieu-là, un jour m'appelle en me disant, écoute Nathalie, on organise une soirée dans 2 jours et le DJ nous a planté.
Mmh.
Est-ce que tu es capable de mixer? Est-ce que tu as déjà fait ça?
Et
est-ce
tu
que
savais
tu pourrais le remplacer? Je dis oui, bien sûr, alors que j'avais jamais mixé de ma vie, mais je me suis dit bon, je peux m'en sortir, c'est peut-être pas si compliqué que ça, et puis bon, je pense que j'ai une bonne culture musicale, et je me suis dit why not, ça peut être sympa. Et donc 2 jours après, je me retrouve aux platines d'une soirée, d'une
c'est
soirée
incroyable.
Mage. Ouais.
Non mais l'effet, je sais pas, ça fait très effet ricochet, tu vois.
Ouais, mais dans leur esprit, voilà, j'étais, ça faisait un an que je bossais pour eux.
Ça faisait un an quand même. Ouais,
ça faisait un an. Et ils se sont dit, tiens, comme elle est passionnée de musique, elle peut-être aussi, mixer ou voilà. Je dis oui, bien sûr, j'ai fait ça. J'ai fait ça toute ma vie. Non, quand même. Et donc, je me retrouve à une soirée mage. La soirée se passe hyper bien. Ils étaient très contents. Et ils m'ont fait refaire d'autres soirées. Et après, d'autres marques ont commencé à m'approcher. D'autres marques du groupe, comme Sandro, Claudie Pierlot. Ouais. J'ai commencé à faire des bandes-sons pour des défilés, pour leurs défilés. Et après, il y a d'autres marques, comme Tara Jarmon, qui ont commencé à vouloir aussi que je mixe à leur soirée. Jusqu'au moment où je me suis fait repérer par un agent qui a voulu s'occuper de
toi.
Cette carrière, de cette nouvelle carrière. Et qui a commencé à me faire bosser pour des marques un petit peu plus luxueuse comme Louis Vuitton, comme Chanel, comme Dior, comme Jaeger LeCoultre, voilà. Et en fait, à ce moment-là, ça a commencé à réellement devenir mon métier.
C'est incroyable.
J'ai un peu, parce que c'est marrant, parce qu'au début, je disais, on me disait, ah, t'es DJ? Je dis, non, je suis comédienne et je joue les DJ. Et c'est, pour moi, c'était un rôle, en fait. Je prenais ça comme quand j'interviewais ces artistes pour Mage. Pour moi, dans mon esprit, je jouais à être journaliste.
C'est intéressant
c'était
ce
un
que
rôle,
tu dis.
Ouais. C'était un rôle que j'avais créé et dans lequel, en fait, je me sentais très bien.
Les marques de luxe, ils donnent des indications, des trucs, ou ils te donnent carte blanche? Enfin, il y a quand même des chartes à respecter.
Bien sûr, ils veulent... Ça doit toujours être en rapport avec la collection, oui.
Mais du coup, tu leur envoies une sélection avant, ils valident, etc.
Eux me donnent en amont
quelques
artistes,
une coloration,
ou morceaux qu'ils adorent. Et puis après, moi, je brode.
D'accord.
Je brode suite à ça. Et puis en fait, ouais, ça a commencé à devenir mon vrai métier.
Eh bien, quel parcours !
Oui. Et parallèlement à ça, j'ai commencé aussi à jouer dans des clubs, hein, comme le Baron. Mmh. À l'époque, j'avais quoi ? J'avais le Ballroom, l'expérimental
ouais.
Cocktail Club, c'est tout. C'est des endroits où j'ai démarré. Et puis voilà. Et puis me voilà aujourd'hui.
Selon toi, en fait, c'est quoi les évolutions du métier de DJ? Est-ce que toi, tu sens que tu peux faire autre chose, en fait, toujours dans le milieu de la musique, tu vois, mais t'évoluerais comment, idéalement? Ou est-ce que tu as des projets, on va dire, toujours dans ce secteur, mais qui ne sont pas forcément liés au métier de DJ?
Y en a qui restent DJ toute leur vie et joue la musique des autres. Moi, c'est vrai que j'ai pas très vite, mais bon, ça fait quand même 6-7 ans, 6-7 ans que je fais ça. Et ça fait, je dirais, 3 ans où je me pose la question. J'ai eu il y a 3 ans un espèce de déclic où je me suis dit, il faut que je crée quelque chose. À part créer une ambiance musicale que je fais pour les marques ou pour... les clubs dans lesquels je joue ici à Paris.
T'as envie de produire, quoi.
J'avais envie de produire. Ouais. Et ça a été... en fait, c'est un autre métier. Il y a DJ et il y a producteur de musique. Mmh. J'avais à la base... Donc, j'ai fait beaucoup de piano quand j'étais plus jeune. Donc j'ai une très bonne oreille musicale et je me suis dit pourquoi ne pas s'en servir en produisant.
Mais ce que toi tu ferais ou ce que d'autres feraient ou
non, enfin
produire toi ton
moi,
propre contenu
produire,
musical.
Okay. Ah oui, quand je dis produire,
c'est pas produire
c'est
des
pas
jeunes
mettre de l'argent
d'accord, okay.
sur d'autres gens non,
d'accord.
c'est vraiment
c'est
moi
produire, c'est créer
c'est
quelque
composer,
chose.
Okay. Composer de la musique et laisser une trace. Et puis, en fait, le déclic, ça a été quand... moi, dans mes sets, c'est vrai que je suis... Bon, je joue beaucoup de genres musicaux. Enfin, je suis assez éclectique dans mes choix musicaux. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une base assez dure et de part aussi le fait que oui, je suis née en Belgique et qu'il y avait beaucoup de musique électronique, beaucoup de techno aussi. C'est vrai que mes sets étaient parfois un peu durs. Et on me le disait, c'est Nathalie, elle joue quand même un petit peu soutenue, un petit peu dure. Et j'avais une espèce de frustration de ne pas pouvoir jouer ce genre de musique. Donc je me suis dit, comment faire ? Eh bien, créer, en fait, un alias. Pour pouvoir jouer la musique que j'aime. Et donc, j'ai créé parallèlement un personnage sur lequel j'ai pas du tout. Je vais recommencer. Comment jouer donc la musique que j'aime. J'ai créé parallèlement un projet techno qui s'appelle Jane Hawk. Jane qui est mon troisième prénom c'est Jeanne, donc je me suis dit Jane, et puis Hawk c'est chaîne en anglais, donc Jane Hawk, j'ai pas été chercher très très loin.
Il y a un compte Instagram qui existe
mais j'en ai pas du tout parlé. C'était quelque chose vraiment qui alors peut-être par pudeur ou j'ai gardé le truc un peu secret. Et donc je compose mes tracks, je produis mes tracks techno. Là j'ai déjà sorti 3 EP. Le quatrième sort fin de l'année.
3 EP ?
3 EP, oui. C'est des espèces de singles en fait.
D'accord.
Il y a 3 tracks.
Okay.
Entre, ouais, une et 3 tracks sur chaque EP. Et donc oui, non, ça a pris 3 ans parce qu'il a fallu aussi que j'apprenne, parce que c'est vrai que le métier de productrice, enfin je savais pas du tout comment faire et c'est vrai que c'est un autre métier et c'est quelque chose qui aujourd'hui me passionne énormément et dans lequel j'ai envie d'évoluer. Parallèlement à ça, j'ai aussi créé, début de cette année, avec un de mes amis, Rudy, un duo qui s'appelle Ono, pour One Night Only. Et alors là, pour le coup, on fait de la musique pas du tout techno, c'est la musique électronique, mais plus disco, funk, un peu house, parce que c'est quand même assez club. Et là, on est en préparation de notre premier EP.
Génial.
Ouais.
Ça sort quand ?
Oh bah, on n'a pas encore de date.
Faut se fixer des dates. Moi, je suis vachement de date.
Écoute, là, on est en plein mixage de 2 tracks et on verra. Je pense qu'on va les sortir. On va créer notre propre label et puis on va les sortir comme ça. Et c'est marrant parce que c'est la première fois que j'ai un projet. Moi qui suis hyper solitaire et qui aime. J'ai toujours fait les choses toute seule et là c'est assez. C'est assez agréable de travailler avec quelqu'un qui a la même approche que moi et les mêmes inspirations et voilà.
Tu me tiendras au courant.
Ono, et on a aussi un compte Instagram.
Ono, il s'appelle Ono le compte.
O-N-O.
Okay.
Ono Musique sur Insta et mon autre projet, donc Jane Hawk, aussi sur Instagram. Et pourquoi j'ai voulu changer de nom aussi ? Parce que je pouvais décemment pas faire de la techno sous Nathalie Duchesne. Ça me paraissait un peu compliqué. Et c'est vrai qu'avec Jane Hawk, j'ai vraiment. C'était une page blanche qui fallait que je une nouvelle histoire. Et aujourd'hui, je me dis que voilà, j'ai ce projet techno où je m'éclate au niveau production Et au niveau de mes sets aussi, je peux jouer ce que je veux. J'ai Nathalie Duchesne, mm-hmm. Où aussi je m'éclate et je suis plus éclectique dans mes, mm-hmm. dans mes choix musicaux. Et puis Ono avec Rudy. Voilà.
Tiens-nous au courant.
Mais avec grand plaisir.
Bravo.
Merci.
J'ai quand on s'est contacté, enfin quand je parce qu'on s'est rencontré, je crois il y a à peu près un an. Je sais pas, je dirais.
Il y a déjà un an.
Ouais, je crois. Enfin, peut-être voilà. Un peu moins, je sais pas.
Un peu moins
quand même. Ouais, j'ai du mal avec la notion du temps. Mais je t'ai recontacté, on a des amis en commun.
Oui.
Coucou Pierre Mathieu, quand même.
Oui.
Et moi, le milieu de. Enfin, le métier de DJ m'a toujours beaucoup attiré. Mm-hmm. Et on en a rapidement parlé ensemble. Et il y a un facteur de travail. Colossal, à mon avis. Bon, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est ça implique quoi, tu vois, comme choix de vie d'être DJ aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens se rendent peut-être pas compte, tu vois, de la vie que c'est au quotidien. Mais là, tu vois, on a commencé l'interview, tu me dis, bah, je me suis couchée à 4h du matin.
Oui.
Voilà. Enfin, en gros, moi, je suis un petit peu curieuse de savoir. C'est quoi ta vie, tu vois, au quotidien et qu'est-ce qui fait qu'on peut durer, tu vois, parce que c'est vrai que c'est un rythme quand même, vivre la nuit, oui, travailler la nuit, c'est quand même vachement dur.
C'est un rythme particulier. Moi, j'ai tout le temps l'impression d'être en décalage, ouais. En jet lag. Non, après, moi, j'ai...
T'as des rythmes, enfin, je suppose que t'as
quand
même...
Maintenant, j'ai un rythme... Moi, je suis en week-end à partir du dimanche jusqu'au mercredi. Mmh. Et à partir du jeudi, ouais, parfois même le mercredi, mmh. à partir du jeudi, je commence ma semaine. Mmh. Début de semaine, je me lève lundi, mardi, mercredi en général, je me lève vers 7h30, 8h. Mmh. Je fais énormément de sport. Et puis, fin de semaine, oui, je commence le travail à 23h. Parfois, je termine vers 5h du matin ou parfois je commence à 2h30 du matin. Je termine à 6h. Parfois, je suis en déplacement à l'étranger. Parfois, je ne dors pas. Enfin, c'est assez...
Ça ne doit pas être facile.
C'est pas que c'est pas facile, c'est un rythme à prendre. Mmh. Et non, le je pense que j'ai pas une vie sociale normale, mmh. parce que moi, mes amis, bon bah voilà, ils sont en week-end, mmh. à partir du vendredi soir, ils sont en week-end, même le jeudi soir, bon, il y en a qui sortent, mais moi, je ne suis jamais présente à des dîners ouais. ou même des anniversaires. Enfin, je mmh. C'est toujours, bah non, je travaille. Bah on sait que Nathalie, elle travaille. Elle ne sera pas là avant 3 heures du matin ou elle doit partir parce qu'elle doit, elle doit bosser à 23 heures. Ou,
donc, cette isole,
bah, elle
n'est
pas là.
Peu.
Bah c'est compliqué pour moi parce que je ne vis pas, en fait. Je ne vis pas une. Enfin, j'ai des amis, mais ils sont.
Mais ils ont un autre rythme.
Ils ont un autre mmh. rythme. Mmh. Et donc, c'est parfois très difficile de se caler là-dessus. Mmh. Et même en vacances, moi pour moi les vacances, c'est je me lève tôt, je me couche tôt, je ne sors pas. Ce ne sont pas des vacances festives comme la majorité de mes amis.
Non, c'est du repos.
C'est du repos. Mmh. C'est du repos. C'est même si j'essaie de me reposer un max pendant l'année, c'est je ne suis pas la meilleure des compagnies en vacances, je pense. c'est pour ça aussi que je ne suis pas très friande de partir en grand groupe d'amis en vacances parce que je sais comment je suis et je préserve aussi mes amis pour ça. C'est que je j'ai pas envie de leur imposer quelque chose, un rythme peut-être de mamie en vacances. Moi, c'est mon taf, c'est d'être la majeure partie de mon temps en discothèque. et voilà, alors c'est particulier. Je n'ai plus cette approche de la fête et du lâcher prise comme je les comprends parce que c'est normal, ils relâchent la pression, ils ont besoin de ça. Moi non, j'ai besoin de dormir et
faire du yoga.
Je fais énormément
natation.
Natation, je suis pas.
T'es yoga, toi ?
Moi, je suis très yoga, ouais. Pilates, ouais. Boxe, beaucoup. Ouais. J'ai découvert un sport, c'est du Pilates. En fait, c'est un mélange entre ça s'appelle le Pilates Fusion. C'est un mélange entre le Pilates, la barre au sol, le cardio, yoga. Enfin, c'est un cours.
Génial.
Ouais, très, 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 très bon cours.
J'ai envie qu'on parle de tes références un peu, de ton style musical, en fait. Est-ce que tu peux te décrire rapidement, enfin pas rapidement,
j'ai beaucoup de références musicales. J'aime la musique. J'aime. Alors après, je t'avoue que je suis pas très rap, hip-hop. Voilà. Même si c'est aux dernières nouvelles, la musique qui marche le mieux
c'est
aujourd'hui.
C'est impressionnant.
Ouais, on n'entend que ça. Mon premier coup de cœur musical. J'étais toute petite. C'est mon père qui avait un nombre de vinyles incalculable, qui avait un vinyle de Kraftwerk, qui est justement là dans ma bibliothèque.
Je serais peut-être une photo.
Et oui, c'était Radioactivity.
Ouais.
Et je sais que j'étais totalement... J'étais subjuguée par cette musique. J'ai fait une réelle fixation en fait sur ça. Ça m'intriguait. C'était une musique hyper bizarre, mais ça m'a fascinée et ça me fascine toujours aujourd'hui. Et ça fait partie de mes références.
Tu peux le décrire un peu pour ceux qui connaissent pas du tout.
Ouais, c'est la musique électronique, ouais. Mais c'est hyper expérimental. Pour moi, les mélodies sont surtout Radioactivity. Ça te rentre dans la tête. Tu as du mal à t'en défaire. Et je pense que pour l'époque, oui, c'était des ovnis. C'était des mecs qui faisaient de la musique avec des machines. C'était...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Pour l'époque, c'était de la musique du futur, quoi. Ça a vraiment été... Pour moi, le premier choc musical. Après, à la maison, on écoutait énormément de Serge Gainsbourg, de Léo Ferré. Ça, c'était mon père, beaucoup, Léo Ferré. De Jacques Brel, beaucoup de Barbara. Gainsbourg, qui pour moi, c'est, je pense pour tout le monde, je vais peut-être me répéter, mais c'est un génie. Ces mélodies, ces textes, le personnage, c'est quelqu'un d'hyper charismatique, il a une élégance de dingue. J'adore Gainsbourg. Oui. Voilà.
Moi aussi.
Et il y a un peu de Gainsbourg partout ici dans mon appart.
Je vois.
Et voilà.
Est-ce que tu as un avis sur le milieu de la nuit de nos jours ? Parce que vu que ça fait quand même longtemps que tu le ferais, enfin longtemps. Proportionnellement à ton jeune âge.
Ça fait longtemps, je suis un vieux dinosaure.
Non, mais proportionnellement à ton jeune âge, justement, est-ce que tu sens une évolution, tu vois, dans le milieu de la nuit je sais pas, quand tu sortais il y a une dizaine d'années, qu'est-ce que tu ressens ? Enfin, c'est quoi les vibes, les énergies que tu ressens quand t'es en boîte ?
Alors. Moi je suis réellement sortie quand j'avais entre je dirais 15 et 18 ans, quand j'étais encore en Belgique. Et en Belgique, on sortait réellement pour la musique. On s'en foutait de qui il y a dans la soirée, de comment cette nana est habillée, ou enfin ça ne se regardait pas. Les gens
on
étaient là
pour s'amuser et danser.
C'était vraiment
voilà,
pour
écouter de la musique.
Pour s'amuser, ouais. Ouais. On sortait dans des petits clubs miteux, mais où il y avait de la musique de dingue. Mmh. Et ce qui a fait aussi ma culture de musique électronique. Je me souviens d'un petit club qui s'appelait le Phoenix, qui était un ancien cinéma porno à Liège. Il y avait des soirées de dingue qui s'appelaient les Electro Clash. Mmh. Là-bas, j'ai découvert The Hacker, Vitalik, Too Many DJ, mmh. Miss Kittin, etc. DJ L aussi. Il y avait aussi une espèce d'ancienne gare désaffectée qui s'appelait la Sun Station. C'était un énorme hangar. Et là, réellement, pour moi, ça a été les meilleures soirées de ma vie. Alors, d'une part, parce que j'étais pas encore dans ce milieu-là, j'étais pas encore DJ, peut-être que je faisais réellement la fête. Mmh. J'avais peut-être ce lâcher-prise que je n'ai plus aujourd'hui. Mmh. Et quand je suis arrivée à Paris, bon, à part le Baron et le Social Club, mais j'étais pas une grande sorteuse. En fait, j'étais tellement... mes parents m'avaient tellement dit « Ah, mais il faut pas sortir !» Enfin, j'étais pas du tout, j'avais peur de, enfin c'est pas que j'avais peur de sortir, mais je me disais il faut que je reste concentrée, que je
n'ai
jamais eu cette espèce de, dès que j'ai mis un pied à Paris, j'étais dans le contrôle et je ne suis pas réellement sortie en fait.
D'accord.
Jusqu'à ce que je devienne DJ, et là ça a été pire. Parce que je ne sortais plus du tout. En fait, à part quand je mixais, je ne sortais pas. Les seules soirées où je sors, c'est quand je sais pas, quand Laurent Garnier vient au Rex, ou Jeff Mills, ou Def Clark, ou voilà.
Okay.
Bon, je reste trois quarts d'heure et puis après je pars. Non, c'est vrai, je suis pas du tout. Mais en fait, je suis pas du tout une sorteuse.
D'accord.
Mais pas du tout. Et c'est drôle parce que mes amis me disent mais t'es pas normal, pourquoi t'es dans ce milieu-là et t'aimes pas sortir. Je dis bah non, en fait, moi ce que j'aime, ce qui me fait réellement kiffer, c'est de jouer de la musique, enfin de passer de la musique et de faire kiffer les gens.
Mais t'as pas d'observation, tu vois, sur le... Excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, du tout. Non,
mais tu vois, ce que tu ressens... juste comme
les gens,
en fait,
est-ce
tu
que
vois
je me demande si vraiment les gens s'amusent.
Voilà.
Je ne sais pas.
Je voulais un petit peu en venir à ça.
Et c'est pour ça que je disais que, comparé à la Belgique, où réellement il y a ce lâcher prise, et je pense même quand tu vas à Berlin, j'ai joué quelques fois à Berlin, j'ai l'impression que les gens sont vraiment là pour la musique. Et ici à Paris, je...
On sort pour sortir.
Ouais.
Un peu, non?
De quoi ?
On sort un peu pour sortir, quoi.
Ouais, pour sortir, on sait pas trop. Et puis, je sais pas, il y a une autre ambiance. Après, je sais pas, peut-être que ça dépend des soirées et des lieux. Enfin, franchement, le dernier club qui pourrait un peu se rapprocher peut-être de cette ambiance qu'il y avait à l'époque au Baron, même si j'y suis allée... vraiment pas énormément, je suis pas énormément sortie au Baron, mais j'y ai joué. Peut-être le Petit Palace aujourd'hui, c'est un endroit qui est assez cool, mais les autres, je sais pas. J'ai l'impression en fait que les clubs se sont transformés en boîte à table. Tu vois, en bar à bouteille. Enfin, non, pas en bar à bouteille, mais en club à bouteille. Voilà. Où il y a plus que un mètre carré pour danser.
Ouais.
Et le reste, ce sont des tables. Et
des gens qui se regardent.
Et des gens qui se regardent. Et des gens qui font des concours de zizi avec moi j'ai mis une plus grosse bouteille que toi, plus chère. Et puis, voilà. Ce qu'il y a autour, c'est pas très ragoûtant.
Ouais.
Mais. Voilà, comme je te dis, comme je ne sors pas beaucoup et que je suis derrière mes platines, je relève pas très souvent la tête et je sens quand même la vibe qu'il y a devant moi.
Ah bah voilà. C'est évident, parce qu'en plus tu dois suivre ça aussi.
Oui.
Enfin, tu dois capter des trucs pour pouvoir adapter ta musique.
Mais moi, mon challenge, c'est de les voir danser et qu'ils passent une bonne soirée. Mais c'est vrai que tu vas dans une soirée... là, dernièrement, j'étais à une soirée à Gand. Mmh. Une soirée du label Diwi. C'est le label qui a créé les Too Many DJ. Mmh. Et les gens ne se regardent pas. Mmh. Ça danse, la musique est trop cool. Mmh. Voilà, il n'y a pas de table. Mmh.
Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a un aspect économique derrière qui a changé un peu la manière dont les gens peuvent s'amuser.
Mais il faut que ça rentabilise tout le temps. Enfin, il faut que les gens gagnent de l'argent et du coup, on se retrouve avec une micro-piste de danse.
Bah ouais. Les femmes DJ, c'est encore pas quelque chose de complètement répandu.
Non, pas du tout. Quand tu regardes des festivals, tu vois la programmation, le line-up, il y a peut-être 5% de nanas.
Mm-hmm. Comment t'expliques ça?
Je pense qu'il y a... est-ce que ce sont vraiment les programmateurs qui ne veulent pas programmer des filles? Je ne sais pas. Mm. Je pense pas, mais je pense qu'il y a plus d'hommes peut-être qui... Alors, je te parle dans le milieu de la techno.
Ouais.
Il y a peut-être beaucoup moins de filles qui font de la techno aussi. Je pense pas que ce soit à 100%
ouais, dans tout...
la faute ouais. D'un programmateur qui ne veut pas booker des femmes.
Ouais, ouais.
Je pense que voilà, juste il y a beaucoup moins de filles qui vont dans cette direction-là.
T'as vécu des trucs pas très sympathiques en tant que femme dans ce milieu?
J'ai peut-être eu de la chance, mais non.
D'accord.
Non. À part qu'on m'appelle la DJette, que je déteste. Je déteste.
C'est vrai, pourquoi ?
Ce terme DJette, je sais pas, ça fait majorette, je n'aime pas.
C'est vrai,
ça fait une explosion dans ma tête quand j'entends DJette. Ah, voilà la DJette. Oui, la DJette.
T'as des rêves à accomplir encore ou... Enfin oui, j'espère
bien sûr,
pour
mais
toi.
J'ai plein de rêves. J'ai plein de rêves.
Encore, tu sais. Non, mais...
Je n'ai que ça, et heureusement. Heureusement, c'est mon moteur. Si j'avais pas de rêve,
t'en as deux trois à nous citer.
À quoi bon? Oui, évidemment. Alors, j'aimerais un jour jouer à Coachella.
pas Burning Man.
Comment?
Burning Man, non?
Burning Man, oui aussi Burning Man. Ouais, non, mais Coachella, Coachella, même si ça devient de plus en plus,
ça devient quand même un peu.
C'est très commercial. Il y a que des blogueuses qui.
Ouais,
mais bon, Coachella, c'est Coachella.
Ça reste un Graal quand même, non?
Ça reste quand même quelque chose d'assez fou. Ouais, Burning Man, le Berghain aussi à Berlin. Et puis quoi? Non, je sais pas. Après, il y a plein de rêves aussi que je veux garder secret.
Ouais, mais je comprends.
Mais oui, évidemment, moi, ça me fait. Enfin, tous les jours, évidemment, je pourrais pas vivre en n'ayant pas de rêves. Et évidemment, je vais les accomplir. Je veux pas que ça reste au niveau du fantasme. Enfin, ça serait ridicule.
Demain, on te propose un rôle au cinéma, t'acceptes?
Bien sûr, évidemment, parce que c'est vrai que c'était mon rêve,
ouais,
mon premier rêve initial, oui, c'était d'être, je suis comédienne dans l'âme, et c'est drôle parce que...
dernièrement
comment j'aurais tellement voulu te dire ça. Non, c'est marrant parce que le métier de comédienne m'est revenu un petit peu dernièrement. L'année dernière, j'ai passé un casting pour j'ai été repérée en fait par une personne incroyable qui s'appelle Christelle Graillot, qui était à l'époque repéreuse de talent chez Canal Plus et Vivendi. Et c'était une magnifique rencontre. Elle m'a repérée sur les réseaux sociaux, sur Instagram. C'est très marrant. J'ai l'habitude, je pense que tu sais, de poster des vidéos totalement idiotes sur
Instagram. J'adore regarder ton Instagram. Il est exceptionnel, ce compte.
Bon, je ne me pose pas de questions. Je poste et je...
Mais t'as bien raison.
Je n'ai pas peur du ridicule.
Il faut que ça reste comme ça.
Et donc, elle m'a repérée comme ça. Comme quoi ?
Ben voilà. Voilà.
Et donc, j'ai passé un casting pour Canal+. Et début de cette année... Elle est devenue agent chez Cher Média et elle m'a proposé de me présenter Cher Média. Et évidemment, j'ai un peu réfléchi quand même. Non, évidemment, j'ai directement dit oui. Mm-hmm. Et j'étais... non, je suis... Voilà, donc maintenant, je suis Cher Média aussi, parallèlement à ma carrière de DJ et de productrice. Mm-hmm. Et voilà. Donc ça, c'est marrant comme quoi 10 ans après, ça revient.
Je crois beaucoup à ça. Je pense que quand t'as une passion, ça revient à un moment ou un autre. Mm. T'as d'autres passions à part cinéma, acting et musique ?
Oui, le sport.
Ouais, ouais, t'es très sportive. Très, très sportive.
Je suis hyper sportive.
Ça se voit d'ailleurs.
Je suis hyper sportive. J'ai toujours fait du sport. Tu sais, moi, je suis enfant unique et il fallait que je m'occupe parce que j'ai toujours été très, très solitaire malgré la grande famille que j'avais. La centaine de cousins et cousines que j'avais, mais il fallait que je m'occupe. Et j'ai toujours été hyper active. Et pour me calmer, je faisais de la gymnastique sportive de haut niveau. Je devais faire 15 heures par semaine.
Wow.
Ouais, jusqu'au moment où ma maman m'a dit, écoute, soit tu choisis de grandir et de devenir une femme, soit tu continues la gym de haut niveau. Et bon, c'est vrai que ça incite quand même, enfin ça ralentit un peu la croissance quand même quand tu fais du sport de haut niveau très très jeune. C'est quand même pas très très bon pour ton organisme. Et donc j'ai abandonné la gymnastique et je me suis mise au tennis. Mais okay. De nouveau, tennis de compétition. Enfin, je faisais des tournois. J'ai toujours aimé me challenger et performer.
Ouais.
Et toujours des sports, pas beaucoup de sports d'équipe. J'étais pas trop dans le sport d'équipe.
Mmh.
Donc oui, le sport évidemment, c'est un besoin pour moi. J'ai toujours besoin, et quand je fais pas de sport, je vais marcher.
Pour moi aussi, je te rassure.
J'adore ça.
Aussi. Et je suis pas fille unique, mais c'est hyper important pour moi aussi. Mais est-ce que tu as un coup de cœur récent, je sais pas, un livre, ça peut être de la musique, enfin une découverte musicale, ça peut être un film que tu as vu, une série, je sais pas, un truc où tu t'es dit waouh.
Alors série, moi j'adore ce que fait Ryan Murphy.
Mm-hmm.
Je sais pas si tu vois qui c'est il fait American Horror Story.
Ah oui. Stories, ouais. Oui.
J'adore. Alors pourtant je déteste les films d'horreur, mais je sais pas, tout est bon, les acteurs sont hyper bons, la BO est géniale. J'adore ce qu'il fait. Et sinon en film, écoute, là je suis en plein trip, enfin j'ai toujours été en fait en plein trip de vieux films français. Je regarde des vieux films avec Belmondo, avec Pierre Richard. Là, j'étais en train de regarder hier. Je regardais de nouveau L'Aventure, c'est l'aventure.
Non, enfin, ouais,
j'adore tout ce cinéma-là de Philippe de Broca, Georges Lautner, Gérard Oury.
Comme moi.
C'est, je sais pas, il y a un côté hyper rassurant et puis.
T'as raison, c'est rassurant.
Je
suis d'accord, c'est rassurant.
Et puis il y a évidemment De Funès. Moi, ça me fait rire en fait. Aujourd'hui, les films
me font plus rire.
Enfin, moi, les comédies ne me font pas rire. Ouais, c'est beau.
Je suis d'accord.
C'est aseptisé.
Je rigole plus au cinéma depuis très longtemps.
Bah voilà.
Non, mais c'est déprimant d'ailleurs parce que ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que la France était connue aussi pour ses comédies.
Mais oui.
Non, mais moi, il m'arrive de regarder des films hyper anciens pour me marrer en fait.
Parce que c'est pas dans les nouveaux, ni américains d'ailleurs, que je trouve vraiment
tout
bon
était, enfin, les répliques aujourd'hui sont ouais. cultes, les acteurs...
Puis il y a un nivellement quand même un peu vers le bas, quoi.
Il y a quoi ?
Il y a un peu un nivellement vers le bas intellectuellement. Ah bah oui. Enfin, tu vois, avant, on faisait un effort pour,
c'était
pour faire rire les gens.
C'était de l'humour ouais. intelligent. Ouais. Aujourd'hui, en fait,
Belges, vous avez gardé ça quand même, parce que
oui, mais nous,
les invasions barbares, moi, tu vois, ça reste un de mes films cultes. Hein. Moi, je trouve que la culture belge, mais ne serait-ce que quand tu vas dans ce pays, c'est, ça te manque pas d'ailleurs, la Belgique ? Pas du tout.
Oui, alors ça me manque par intermittence. C'est quand je travaille beaucoup pendant plusieurs semaines, j'adore rentrer 3 jours en Belgique et me ressourcer. J'ai l'impression que là-bas le temps s'arrête.
Tes parents sont encore là-bas ?
Mes parents sont encore là-bas. C'est les journées durent réellement 24 heures. Ici à Paris, tu te lèves, tu regardes ta montre, il est déjà 16 heures, tu te
c'est
couches.
Vrai, enfin,
après, c'est peut-être moi mon côté de journée décalée mais ça passe tellement vite et en Belgique non j'ai pas tout est cool tout est
non mais je trouve que les Belges en plus sont des gens quand même très sympas.
Ah merci.
Non mais je dis pas ça pour non mais vraiment je trouve qu'ils sont
on se prend pas la tête.
Non, il y a pas de prise de tête,
on se prend pas la tête, on n'est pas on n'a pas peur du ridicule. Ouais. On est enfin je parle en mon nom. Je sais pas si c'est bon. Si c'est moi, tous les amis qui ont déjà été en Belgique je n'entends que des louanges.
Ouais, moi j'adore. J'y ai passé beaucoup de temps et j'adore.
Comme dirait Poulvord, tu t'assieds à une terrasse d'un café en une heure tu connais
ça.
Tout. Ouais. Tout
ici, on est sur nos téléphones.
Ah oui, mais non, mais nous aussi, on est sur nos téléphones. Attends, ouais. c'est arrivé jusqu'à chez nous, les téléphones. On a même la télé en couleur et tout. C'est, on est évolué. Hein. Mais non, c'est vrai qu'on était peut-être plus généreux, en fait,
dans les rapports humains.
Dans les rapports humains. Et c'est vrai qu'on s'en fout, en fait. On s'en fiche. On se pose pas la question de savoir je l'ai dit tout à l'heure, même en club,
c'est une approche différente.
C'est différent.
Indépendamment de ton métier, qu'est-ce que tu penses justement, puisqu'on parle de ça, et j'ai un peu envie de poser cette question maintenant à tous mes invités.
Dis-moi.
Parce que je l'ai posée là tout à l'heure, hier aussi à un autre de mes invités, c'est est-ce que tu trouves qu'on est devenus un peu moins humains les uns les autres ? Tu vois, mais là, vu qu'on est à peu près de la même génération, enfin, je te demanderai pas ton âge, mais bon, on n'est pas très éloignés. Mais est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux, ça nous a fait du mal ou pas ?
Bien sûr, ça nous a fait du mal parce que tout est. Enfin, on a l'impression de connaître les gens sans réellement les connaître. En fait, alors après, on déballe ce qu'on veut aussi sur ces réseaux-là.
Ouais.
On raconte l'histoire qu'on veut. On peut s'inventer des vies aussi. Il y a un énorme côté artistique, en fait.
Ouais,
il y a des grands réalisateurs sur Instagram. Je pense que on a perdu ce côté. On est devenu timide, en fait, je trouve. Enfin, on est caché derrière notre ordinateur, derrière notre téléphone, et on va beaucoup moins vers les gens. Quand il s'agit de rencontrer la personne avec laquelle tu as parlé sur Instagram pendant 6 mois et que tu vas rencontrer cette personne, il y a une espèce de truc où tu as l'impression de la connaître, mais en fait tu connais pas les gens. Enfin, c'est rien de tel que les vraies rencontres physique. Humaines. Mmh. Je pense que avant l'arrivée de tout ça, même du téléphone, on se donnait rendez-vous à telle heure, eh ben, tel jour, à telle heure, la personne était là. Enfin, on n'avait pas à se téléphoner, à se dire, ah bah non, je peux pas venir. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Enfin, je pense qu'on rate, énormément de choses. Après, évidemment, il y a un sens pratique.
Évident, bien sûr, c'est facile de délier autant. Enfin, c'est aussi facile de lier que de délier, quoi.
Que de délier, ouais. Et on n'a pas peur parce qu'on n'a pas l'impression d'être confronté réellement à ça, puisqu'on est, on est caché derrière notre téléphone. Mmh. Et avant, ça discutait. Enfin, tu vas dans un bar, dans une boîte, dans un restaurant. Combien de couples qui dînent en tête à tête sont sur leur téléphone ? Ils ne se parlent même plus. Mmh. Mmh. Je me suis dit, est-ce qu'ils communiquent entre eux avec leur téléphone ? Non, mais c'est dingue quand même, des tables de 10 personnes, anniversaire, et les gens beaucoup. Ne se parlent plus. Mmh. Après, je ne vais pas non plus jeter la pierre, je suis sur mon téléphone.
Mais c'est assez perturbant.
C'est perturbant parce qu'on préfère. On préfère être caché derrière un moyen de communication plutôt que de se dire ben en fait non mais je peux parler à la personne, je peux la voir. C'est bon, après évidemment ça nous apporte des choses positives aussi, hein. Je veux pas non plus cracher sur ça, mais
c'est sûr.
Mais bon,
t'as un coup de gueule à passer ou plusieurs?
Coup de gueule oui. Alors, coup de gueule, oui ou non.
Un truc à dire.
Je me questionnais sur le sens du féminisme aujourd'hui. Mm-hmm. Je trouve qu'on est. Personnellement, je pense qu'on a un peu perdu le sens originel de ce mot. Je trouve qu'on l'utilise un peu à tirer l'arigot comme ça, sans réellement savoir ce que c'est. Pour moi, le féminisme, c'est de disposer d'autant de liberté et de droits qu'un homme, dans la poursuite de d'objectifs, comme par exemple aujourd'hui, oui, la parité. Alors moi, j'avais une très belle phrase, je ne me souviens plus de qui c'était, qui disait « La mission de la femme n'est pas de mettre en valeur l'esprit masculin, mais d'exprimer le féminin. Sa mission n'est pas de préserver un monde fait par l'homme, mais de créer un monde humain par l'apport de l'élément féminin dans toutes ses activités. » Et l'homme n'est pas notre ennemi. En fait, il faut pas se dire ah les hommes c'est pas bien, non c'est pas ça, c'est juste on a envie de construire quelque chose avec l'homme à la même échelle en fait. Il ne doit pas y avoir quelqu'un qui soit plus la femme plus
l'un contre l'autre.
On vit ensemble, c'est comme ça. Mais on doit avoir les mêmes droits qu'un homme. Et je trouve qu'aujourd'hui, ouais, on dit ah ouais, girl power, etc. Oui, bah alors oui, très très bien. Battons-nous pour les bonnes choses et pas les hommes, c'est des cons
ça fait
je montre
mal,
mes
en
fesses,
fait.
J'ai le droit de montrer mes fesses.
Moi, je pense que ça a fait plus de mal au rapport homme-femme qu'autre chose.
Mais oui, alors maintenant, les
autant
hommes,
dans le travail que dans la vie.
On est en train de leur couper les
les couilles. Ouais, les couilles. Non, mais clairement. Mais d'ailleurs, ça, la contre. L'effet pervers de ça, c'est que ils savent plus comment se comporter.
Mais voilà. Et donc du coup, on se retrouve face à des hommes qui ne sont plus vraiment des hommes. Et nous, on demande juste d'être considérés comme égal à eux. Mais c'est pas pour ça qu'on doit les écraser. Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'écraser les hommes. Je sais pas, je comprends pas aujourd'hui tous ces trucs qu'on entend, et je pense qu'on a trop monté ce mot féminisme et ça me dérange. Donc ouais, coup de gueule.
Non mais je te rejoins tout à fait, d'autant que
il faut construire quelque chose ensemble, c'est ça. Il faut apporter notre part de féminité et construire quelque chose qui nous convienne. Qui nous conviennent tous les deux.
C'est évident. C'est évident, d'autant que ce qui est assez déstabilisant, c'est l'extrême Enfin, moi, je suis un peu perturbée, mais à chaque fois, je leur dis dans mes interviews, mais je vais saouler tout le monde avec ça, mais en même temps, c'est pas grave. Non, je suis perturbée par l'image de la femme sur les réseaux sociaux et qui. Enfin, je sais pas si toi comme moi.
Mais on voit les mêmes choses, ne t'inquiète pas, on voit les mêmes choses.
On voit les mêmes choses. On voit les mêmes fesses. On voit les mêmes fesses, les mêmes seins, les mêmes machins, les mêmes trucs. Et en fait, je me dis, mais à la fois, on a un discours de. Tu vois. Ce que tu viens de dire de girl power, on est féministe, on est ceci, on est cela, qui honnêtement, je pense, casse la tête de tout le monde. Enfin, oui. Tu vois, ça commence à saouler tout le monde, globalement. Moi, la première.
Et c'est pour ça que je. Ouais, c'est le coup de gueule que je.
C'est ça. Et en parallèle, t'as des nanas qui passent leur temps à se mettre en scène uniquement pour leur physique. Alors, moi, je comprends pas. C'est-à-dire que j'ai juste envie qu'on arrive à trouver un middle, tu vois, où... ouais, très bien, enfin, montre-toi et tout, mais parle, dis un truc, fais quelque chose, tu vois. Et je te rejoins, c'est que... Moi, je comprends pas grand-chose, en fait. C'est que je me dis, mais... Il y a un discours d'extrême féminisme, de combative, de trucs, de machin, et en même temps, il y a une image de la femme qui ressort aujourd'hui qui est quand même superficielle à mort.
Mais c'est, je suis féministe, donc je montre mon cul et voilà, c'est mais vous n'avez pas d'autre chose à dire.
Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un peu réducteur.
Voilà. Ben oui.
Voilà. Mais c'est dommage.
Voilà, nous avons les mêmes questions.
Bon, ben,
alors, même si, enfin, je veux dire, moi, je veux dire, ça, évidemment, ça m'arrive de poster des photos de moi, je veux dire, sur Instagram, en maillot.
Ouais.
Mais je vais pas mettre hashtag girl power, hashtag ne touche pas à mes fesses. Enfin, c'est pas ça. Je mets une photo de moi en maillot parce que j'ai envie de mettre une photo de moi en maillot. Mais je vais pas. Déjà, mon fonds de commerce n'est pas axé sur ça. Ouais. J'ai d'autres choses à dire et à défendre. Mais c'est pas parce que c'est pas non plus parce qu'on met une photo en maillot sur Instagram que pour ça on est considéré comme quelqu'un
non mais c'est
un
évident
objet ou
non mais attends après il y a en plus un sujet de liberté tu vois intrinsèque aux réseaux sociaux et ça c'est une très bonne chose parce que finalement les gens s'expriment et comme tu dis ils sont créateurs d'eux-mêmes de leur image etc donc il y a quelque chose de très positif là-dedans mais c'est vrai que je sais pas je trouve que là j'espère en tout cas que la prochaine vague réseaux sociaux sera ok, je fais ce que je veux, je montre ce que je veux, mais en même temps je raconte un truc quoi.
Mais oui, voilà. je défends de vraies idées.
Ouais, exactement.
Ça manque un petit peu. Du coup, je trouve que c'est parfois assez risible de filles qui ouais c'est. Tu vois, hashtag... ouais, c'est ça.
Est-ce que tu as une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais voulu que je te pose?
Es-tu amoureuse en ce moment? Mais je ne te répondrai pas, parce que tu ne me l'as pas posée.
J'allais te poser la question, mais en même temps...
C'est vrai?
Ouais, je te jure.
Ah ben voilà. Trop tard. Ah,
donc tu réponds pas.
Oui, je suis amoureuse de mon travail. C'est vrai en plus.
Eh ben écoute, tant mieux. C'est une bonne chose.
Ah oui, j'avais des rêves. Attends, oui, tu m'as posé rêve, mais tu m'as pas posé que. Est-ce que tu as des fantasmes? Attends.
Ouais, en fait, la question c'était. Est-ce que tu as des rêves tu vois, que tu veux accomplir et ceux que tu veux pas, enfin que tu veux laisser à l'état de rêve, quoi. Parce qu'on est tous un peu comme ça, il y a des trucs
mais alors,
qui sont
pas faits pour... j'ai des rêves qui sont irréalisables et qui resteront, je pense, à jamais, sauf miracle, à l'état de fantasme. Ça serait par exemple de prendre le thé avec Simone Veil ou de fumer une clope avec Gainsbourg ou de prendre un cours de danse avec Michael Jackson aussi.
Oh la vache. Ah ouais.
Voilà. Mais bon, c'est je pense que ouais non ce sera ce n'est pas possible.
Ok.
Voilà.
Eh ben écoute, on va finir cette interview sur ces belles paroles.
Voilà.
Qui vont laisser rêver plein de gens.
Je ne sais pas.
Merci beaucoup Nathalie, c'était un plaisir d'échanger avec toi.
Merci.
Je te souhaite une super bonne continuation.
Merci beaucoup.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.